Yvon Laprade, le mercredi, qu'on peut lire dans la presse, qui habite fièrement Saint-Élie-de-Caxton, vient avec nous autres commenter quelques sujets d'actualité. Yvon, bonjour.
Bonjour Robert, comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien, c'est la forme, vacciné, j'ai l'impression que l'immunité embarque, là. Moi, là, ça va faire 2 semaines que j'ai été vacciné. D'ailleurs, l'équipe ici à la station, là, dans ces espèces d'influenceurs, ils nous ont donné des chandails avec écrit dessus. Qu'est-ce qui est écrit dessus exactement? Moi aussi, là, sais-tu...
J'en ai pas eu, je peux pas te le dire.
Ah, t'en as pas eu, toi?
Non.
T'étais pas dans la liste des...
La liste d'envoi.
La liste d'envoi. Je vais te dire exactement ce qui est écrit dessus, parce que je l'ai sous les yeux, j'ai pris une photo que je devrais poster éventuellement. Comptez sur moi. Et c'est hashtag by COVID, c'est ça, qui est écrit. Moi, j'ai pris la photo en question, qui est formidable d'ailleurs. C'est Patrick Bégin qui a pris la photo de moi-même. Puis je l'ai passé dans un filtre qu'on appelle Manly. Connais-tu ça, Yvon?
Non, je connais pas, non.
Bon,
non.
C'est extraordinaire. C'est un Manly. Ça te permet d'avoir une taille de guêpe. En temps de pandémie, la taille de guêpe ressemble plus à un bourdon qu'à autre chose, là. Alors, tu passes ça dans Manly. Écoute, tu devras voir ça. J'ai l'air d'un surhomme. J'ai l'air d'un super-héros, là, qui vient tout juste d'être vacciné. Je vais mettre ça sur les médias sociaux. Mais ceux qui pensent que j'ai cet air-là, là, détrompez-vous, c'est pas ça qui est la réalité. Cela étant
dit... On va y voir ça.
tu iras voir ça, je devrais le mettre sur mon Facebook quelque part cet après-midi. Trois sujets aujourd'hui. Écoute, on va commencer avec un sujet qu'on a abordé tantôt. Ces gens qui, en raison de la surchauffe du marché immobilier actuellement, ne sont pas capables de trouver une maison à leur goût avec le budget qu'ils ont. Alors, ils ont décidé de lancer une espèce de speed dating de la maison pour trouver un match parfait pour échanger leur maison. C'est dans le Nouvelliste aujourd'hui, tu l'as lu. Toi qui habites Saint-Élie-de-Caxton, qu'est-ce que tu en penses?
Bien, qu'est-ce que j'en pense pour connaître un peu pas mal le marché immobilier? Là, je fais beaucoup de textes là-dessus. Je parle avec beaucoup de gens qui achètent, qui vendent des courtiers. Ce que j'en pense, c'est une idée qui me semble fort intéressante. Évidemment, ça m'a même étonné de lire ça parce que j'ai jamais entendu jusqu'à maintenant des personnes avoir cette approche-là d'échanger leur propriété pour une autre là, dans un marché qui surchauffe effectivement pour éviter d'avoir à payer des montants astronomiques là, pour avoir droit à une propriété pour pouvoir l'acquérir. Ben, moi, je trouve ça innovant. C'est une idée qui est intéressante, qui est évidemment surprenante aussi. Il y a quand même des questions qu'il faut poser. C'est pas simple non plus.
Parce qu'ils vont. D'abord, tu veux une maison qui vaut à peu près la même chose que la tienne, qui n'a pas de vis caché, hein, qui répond à tous les besoins de la famille. Non, c'est pas évident. De trouver un match parfait, s'ils réussissent, tant mieux, là.
Ben moi, s'ils réussissent, tant mieux. Ça peut peut-être ouvrir la voie à d'autres projets similaires, mais personnellement, pour trouver la maison qui me convient, au prix qui me convient, dans le timing du déménagement qui me conviendrait aussi, c'est beaucoup d'éléments qu'il faut considérer. En même temps, il faut considérer aussi l'élément financier. Là, on parlait vraiment que c'est des transactions, des vraies transactions, mais il y a quand même aussi des points à observer là, en termes de valeur équivalente. Là. C'est un grand défi. C'est particulier.
On a pris Yvon un rendez-vous avec la dame en question, puis on verra comment ça avance son projet. En parlant de vente de maisons et de surchauffe du marché immobilier, tu as fait un texte qu'on a lu en fin de semaine à propos de la vente de maisons, mais pour des fins humanitaires, pour éviter que la surchauffe vienne empêcher une dame de finir ses jours chez elle.
Oui, écoute, Robert, j'en ai fait des papiers dans ma carrière, là, je peux dire. Puis ce papier-là sur une transaction immobilière, c'était loin d'une transaction immobilière conventionnelle. C'était vraiment empreint d'humanisme, de sensibilité entre les êtres humains dans un contexte de pandémie où tout le monde cherche un peu à retrouver ses repères, puis avoir des attitudes là, finalement positives. En même temps, on parle beaucoup des prix des maisons. Donc, en résumé, cette histoire-là, c'est une personne, c'est une dame qui est décédée il y a un mois déjà quand même. Elle avait le cancer, puis elle et son mari, c'est l'histoire classique, ils habitaient Québec, puis ils cherchaient une propriété. Ils ont vendu la propriété très facilement en janvier 2020. Et puis, durant l'hiver 2020, est arrivée la pandémie. Puis là, ils cherchaient des propriétés. Ça fonctionnait pas. Il y avait des difficultés à trouver vraiment ce qu'ils cherchaient dans le bout de Mont-Saint-Hilaire. Finalement, ils étaient eux aussi dans la surenchère. Ils ne parvenaient jamais à finaliser une transaction. Donc, ils se sont trouvés dans le sous-sol de la fille de cette dame-là qui les a hébergés pendant un certain temps. Donc, ils étaient sans maison, sans abri. Ils avaient quitté leur maison, puis il n'y avait pas d'autre maison. Ils n'avaient pas réussi à trouver une propriété. Finalement, ils ont réussi à acheter une propriété in extremis en novembre dernier. Et c'est là qu'il arrive l'élément de vendre par empathie, par avoir un comportement humain. Bien, le vendeur, c'est un jeune couple dans la trentaine, mi-trentaine, qui ont été touchés par l'histoire de ce couple-là, de cette dame-là qui avait le cancer en phase là, presque terminale. Il restait peut-être 3-4 mois à vivre. Puis ils se sont dit, ben, on va rendre service à ces gens-là, ça va peut-être nous revenir un jour, mais on le fait par sensibilité. Puis ils ont laissé sur la table 15 000 $ quand même. Ils ont pris une offre moins élevée pour permettre à ces gens-là d'avoir une propriété pour s'installer avant Noël. Donc, c'était le dernier projet de vie de cette femme-là, là, elle et son mari. Donc, c'est assez... Écoute, on en voit des histoires d'humains, d'êtres humains. Puis d'êtres humains, heureusement, il y en a beaucoup des gens sympathiques puis bien chaleureux envers les autres. Mais dans ce cas-ci, c'était... j'avoue que ça a touché beaucoup de monde, y compris le vendeur et l'acheteur. Même l'acheteur, le monsieur en question qui a perdu sa femme il y a un mois. C'est une parenthèse, m'a téléphoné hier pour me dire que ça lui avait fait du bien de raconter son histoire parce qu'il s'est dit... Le côté immobilier, c'est un élément important, mais dans un contexte de pandémie puis de difficultés économiques et tout ça, ben ça me fait du bien. Donc, on peut faire du bien aux autres, hein. C'est pas juste l'argent qui doit prédominer, je pense, même si c'est important là, en immobilier.
Ben, en tout cas, c'est une histoire intéressante qu'on pourra lire. C'est toujours disponible sur le web. Allez lire ça sous la plume d'Yvon Laprade. Yvon, en terminant. Parle-moi du port de Trois-Rivières, du fleuve Saint-Laurent, du transport maritime qui va s'intensifier, parce qu'il y a un gros projet là, de construction au port de Trois-Rivières au cours des prochaines années. Pour toi, ce qui est important, c'est de regarder aussi à voyager sur le fleuve Saint-Laurent tout en respectant l'environnement.
Oui, tout à fait. Puis c'est drôle, je t'écoutais tantôt, tu parlais de planter des arbres en fin de semaine. C'est un beau temps pour aussi voir passer les bateaux sur le fleuve, parce qu'il y a un trafic énorme là, sur le fleuve Saint-Laurent. Puis c'est beau des bateaux, c'est beau des navires lorsqu'il fait beau et tout ça, mais en même temps, faut pas non plus négliger l'aspect environnemental. Ces navires-là consomment beaucoup de carburant. Et puis moi, j'ai écrit des papiers là-dessus aussi. Puis il y a des entreprises, justement, c'est Texol Marine, c'est une entreprise là, dans le bout de Québec qui, eux, font de la gestion intelligente de l'énergie. C'est un peu l'expression à la mode, la gestion intelligente d'énergie, de stockage d'énergie pour réduire la consommation du carburant, pour réduire les émanations de gaz à effet de serre. Là, la planète, on veut la protéger un peu plus. Puis plus il y a du trafic maritime, mais plus ça suppose évidemment que le fleuve est malmené. Donc, l'économie maritime, il faut en tenir compte. Puis ça revient justement à Trois-Rivières. Trois-Rivières a des projets important de développement. C'est un port qui date quand même d'une centaine d'années, 125 ans, si je ne me trompe pas, ou 140. Là. Et là, ils vont investir, ce que j'ai pu comprendre, investir 130 millions de dollars en 2024 ou autour pour faire grossir le port de Trois-Rivières, construire des quais, des ouvrages de soutènement, de voies d'accès, d'entreposage. Donc, ça va augmenter la capacité de tonnage de 50%. C'est quand même pas rien, Robert. Ça veut dire que pour Trois-Rivières, qui est une ville qui est en plein essor économique, ben, si on décide d'investir dans le port de Trois-Rivières, qui est un gros moteur dans la région, puis autour, ben, c'est un signe qu'effectivement, il se passe des choses dans la région. Donc, ça va être surveillé, puis ça va créer des emplois aussi. On parle d'une centaine je cherche mes chiffres un peu, une centaine d'emplois, je ne me trompe pas, peut-être même 600 en période de pointe. Donc, ça va amener aussi tout un dynamisme. Finalement, c'est des bonnes nouvelles, mais il faut effectivement développer le port de Trois-Rivières, mais il faut aussi toujours considérer l'aspect environnemental dans ces projets de développement. Donc, c'est l'équilibre entre le vert et puis l'économie.
Merci. Merci, Yvon. Tu as bien raison. On va te lire. Le texte est publié dans la presse. À bientôt. À la semaine prochaine.
Merci, Robert.
Bye-bye.
Bonne plantation. Merci.
Oui, merci beaucoup.
Salut.
Un arbre, pas beaucoup, un arbre ou deux, puis vous le bichonnez, puis vous en prenez soin, quelque part sur la pelouse. Toi, de toute façon, là où tu habites, ta maison secondaire en campagne, des arbres, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, pas besoin d'en planter.
Mais il en faut, des arbres. Sans arbres, on est malheureux.
Ouais, non, mais les arbres, c'est la vie. Hein? Ça attire les oiseaux, la faune, la flore et tout ça. Puis c'est magnifique, des arbres, ça vit hein, au rythme des saisons. Les bourgeons et puis de voir un arbre perdre ses feuilles aussi.
Ça évite les inondations, ça évite les glissements de terrain.
Oui, ça capte le carbone.
Oui.
Entre autres, le monoxyde de carbone.
Ben oui.
Et ça nous redonne de l'oxygène. Il y a 56 000 bonnes raisons de planter des arbres.
Mais tu ris, hein, mais tu sais, dans le contexte où on prend beaucoup d'expansion, puis là, on coupe pour construire, puis là, ben, il y a de plus en plus de maisons qui se bâtissent. Ça, c'est un des trucs auxquels il faut faire attention. Quand tu défriches, là, puis tu coupes des arbres, ça se peut qu'il n'y en ait pas trop loin, qu'il y ait des surprises avec des inondations, parce qu'un peu plus haut, ces arbres-là, justement, retenaient l'eau dans la nappe phréatique, puis ceux en bas, ils se ramassent avec de l'eau dans la cave.
Non, non, mais va en parler aux habitants d'Haïti. Okay? Où, sur une période de plus d'un siècle, on a coupé les forêts, on a déforesté l'île. Et aujourd'hui, ils sont aux prises avec, entre autres, des tempêtes. Lorsque des tempêtes de pluie là, importantes, il y a des coulées de boue épouvantables en Haïti. C'est un problème marquant. Alors donc, tu sais, écoute, oui, couper des arbres, c'est important de récolter la forêt, mais il faut en planter aussi.
Ben oui.
Puis ça, c'est un autre geste de générosité pour les générations futures.